France Culture. Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Vous connaissez, et vous vous souvenez heureusement, de votre adresse personnelle. C'est très intime une adresse, cela peut être même romanesque. Le nom d'une rue, c'est déjà toute une aventure. Alors préciser le numéro de cette rue pour un amoureux ou pour une amoureuse, par exemple, c'est le début d'une histoire. Les lieux de mémoire, en 1997, s'intéressaient plus particulièrement à l'attribution des noms de rue, à ce que ces noms racontent, et aussi aux familles qui, parents célèbres ou héroïques, ce qui est mieux, espèrent voir une rue de leur ville porter un jour leur propre nom. Avec un autre prénom, certes. Il faut attendre, parfois, des décennies, il faut attendre que l'on dénomme une rue pour la renommer. Et dénommer une rue, cela n'est pas courant. À une époque, lorsque Paris annexait les villages proches, par exemple, on urbanisait et l'on créait des rues. Mais on n'en crée plus, ou très peu. Que disent les plaques des rues ? Lieu de mémoire. Première diffusion sur France Culture le 3 avril 1997.
Lieu de mémoire, les noms des rues par René Elkaïm Bollinger. Réalisation, Eliane Millot.
Vous longez une rue sans importance, et là vous voyez une plaque, la rue de l'avenir. Et vous tournez à droite. Et ce que vous voyez n'est ni rue, ni passage. Vous voyez une impasse qui n'a que deux numéros, 1 et 3, pas un seul habitant. Il n'y a personne dans Paris qui habite la rue de l'avenir. On ne peut pas y habiter. L'avenir, c'est même plus éphémère que la vérité. On ne peut même pas y passer, certainement pas s'y installer.
Vous les connaissez parce qu'on fait une émission sur les noms des rues.
Ouais. Ah ouais.
Vous savez bien.
Tous.
Comment... Alors,
Julien Lacroix.
Julien Lacroix, Sénégal, Rampono, Sénégal, Place Alphonse Allais, plein. Il y a rue Ménilmontant.
Rue Les Sages.
Cité Les Jeunes.
Rue Noyer, rue des Noyers, rue des Tourtiers, rue Bisson. La Place en Force.
Rue Foyer. Rue Foyer.
Et la rue Rébéval.
La banane, la banane, rue de la rue des Amandiers, la banane.
Il y a
Rupia, il y a 140 Ménilmontant.
Il y a Piapi.
Il y a Lorient.
Il y a Fougère. Il y a Casaledo.
Des loyers.
Comment ça s'appelle ça?
Il y a le petit Nico, tu es fou.
La rue de la Chine.
La rue de la Chine.
Ah ouais.
C'est bizarre.
C'est où?
Je crois que c'est un pays, c'est un
pays.
C'est quoi? C'est pas un pays?
La rue de la banane, madame.
Il y a une rue de la banane?
Ouais,
c'est vrai. C'est de la banane, c'est la pizza.
Je ne sais pas si la rue de la banane existe. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes à Belleville, dans le 20e arrondissement de Paris. On a le nez sur les plaques des rues, lettres blanches sur fond bleu, et on ne peut pas s'empêcher de penser au refrain de Prévert, enfant sous la troisième, et au passage des eaux, à la rue de la Source, à la rue des Cascades et à la Grosse Bouteille. On se souvient aussi de Henri Miller en partance pour la France, pointant sur le plan de Paris la rue du dessous des berges. Miller ébloui par ces noms de rues qui ne sont pas des numéros comme à Manhattan. Qui donne les noms de rues ? Quel étranger l'œil sur la plaque de Tilsit ou Richard Lenoir pourra déchiffrer ce morceau de ville, ce cosmos linguistique ? Walter Benjamin écrivait dans Paris, capitale du XIXe siècle, qu'il y a une volupté particulière à donner des noms aux rues. Volupté à donner, mais aussi à entendre, à lire. Nous voilà dans l'histoire, la littérature, l'héroïsme, la guerre ou la chansonnette. Mais baptiser une nouvelle rue n'est pas une chose simple à Paris et aux alentours. Rebaptiser, c'est pire, paraît-il. Et les riverains ? Et le facteur qui fait sa tournée ? Comment vivent-ils ces noms et ces métamorphoses ? Une traversée dans deux arrondissements, le 18e et le 20e, puis une ville de la banlieue. À Belleville, avec Daniel Milot, historien, et Éric Le Breton, auteur des mémoires d'un facteur parisien.
Est-ce que vous savez où est-ce qu'on peut trouver la rue des Envierges ?
Ben c'est là-haut, la rue des Envierges.
Oui, c'est à côté de la rue du Transvaal, hein ?
Je sais pas. Ouais, je crois que c'est à côté.
Toi, tu as vu la rue du Transvaal, la rue Botta, elle se jette dans la rue du Transvaal.
Ce sont deux rues qui portent à merveille des noms impossibles, absurdes. Ça fait partie de l'ironie dénominative de la ville de Paris. La rue Transvaal, la rue Botta, nom de lieu et nom de général, beurre. C'était à l'époque où les beurs, c'est-à-dire les Afrikaners, avaient la côte parce qu'ils se battaient contre les Britanniques. C'était les exploiter, c'était les dominer. Eh bien, ces deux noms ont été donnés dans le quartier dans les années 1900, quand c'était encore les Blancs d'origine hollandaise qui étaient les victimes. Eh bien, voici l'ironie qui entre en scène quelque chose comme 70 ans plus tard. Cette rue est devenue une rue peuplée par des Noirs.
Ouais, quand j'arrivais au sommet de la rue des Envierges, là, au passage entre la rue des Envierges et la rue du Transvaal, ça me paraissait une sorte de récompense, parce que je jetais mon petit œil sur Paris, là, et j'étais ravi d'arriver là, parce que j'avais presque fini ma tournée. Là.
Ah, c'était là.
Ouais, c'était la délivrance. Ouais.
La délivrance
ouais. Surtout quand je voyais ça là, à la Courtille. Parce que à la Courtille, bon, bah, c'est un nom traditionnel du quartier, ça, la Courtille. Hein. C'était les restaurants qui peuplaient, les bars, les cafés qui peuplaient le 20e au 19e siècle.
Éric Le Breton, donc, il a parcouru le quartier comme facteur. Hein. C'était un facteur dans le quartier. Et,
alors, c'est qui Transvaal ? C'est quoi Transvaal ?
Transvaal ?
Qu'est-ce que tu sais ?
C'est, je crois. C'est un travailleur, non ? Un travailleur postier ?
Non.
Facteur ?
Selon vous, c'est quoi ?
C'est une rue ?
Non, sérieusement, je ne sais pas c'est quoi.
C'est quoi Transvaal ?
Un homme !
C'est un homme qui est mort.
Essayons encore.
C'est un homme d'État.
C'est un homme qui est mort, ils ont pris son nom parce qu'il était célèbre.
Non, eh bien.
Qui a fait quelque chose de bien.
Non, écrivain. Je vais vous raconter qu'est-ce que c'est Transvaal. Transvaal, c'est une région de l'Afrique du Sud. C'est la région en Afrique du Sud qui était la plus anti-noire.
Ah oui.
Où il y avait le plus de problèmes d'apartheid. Vous imaginez ?
Vous habitez dans quelle rue ?
Nous, on habite là, justement.
Elle est du Père Julien Duit.
Elle est ?
Du Père Julien Duit.
C'est la voie Sécuvent.
C'est l'entrée.
Ouais, c'est la 17 rue des Envierges.
Et vous jouez souvent ici ?
Oui, ouais, tout le temps.
Mais là, le terrain de la rue Transvaal, c'est votre terrain de jeu ?
Oui, terrain de foot.
Vous connaissez quelle rue ? Alors,
rue du Sénégal, Millimontant, Claude Chap.
N'importe quoi, c'est un collège ça. Rue des Alouettes, rue Fessard.
Je sais pas, mais rue des Combats. C'est 17e.
Rue des Zakia aussi.
Rue des quoi ?
Zakia.
Zakia, c'est quoi ?
C'est la rue.
Ah, moi, c'était une prostituée. On va dire ça.
Voilà.
Et la rue des Envierges, vous la connaissez ?
Ah, oui, c'était les sept vierges. Les sept. Je m'en souviens plus. J'étais théâtre en tout cas.
Elles étaient quatre.
Oui. Ouais, quatre, c'était des femmes en tout cas.
C'est quoi une vierge, selon vous?
C'est des femmes, c'est
une dame sans.
Le long des rues de Paris, si jolie, mon enfance traîne le jour et la nuit. Le long des rues de Paris, où je vis, mon enfance pleure le jour et la nuit. Je revois l'enfant blême au canal Saint-Martin voler.
Nos sacoches nous attendent et nous devons finir la journée. Raoul, lui, il goûte avec délectation tout son parcours de facteur et même les alentours. Il savoure la rue des Pyrénées, il déguste la rue de Ménilmontant, il hume la rue de Pelleport, il renifle l'avenue Gambetta façon Saint-Nectaire.
Éric Le Breton, les rues, elles ont une odeur. Vous les avez reniflées aussi quand vous étiez facteur?
Oui. Parce que l'odeur, c'est comme le nom, c'est comme l'aspect visuel des rues, c'est-à-dire que c'est tout ce qui peut nous faire un peu marcher l'imagination pendant qu'on travaille, on en a besoin, parce que les sacoches sont lourdes, et on a besoin de rêver. Mais le nom des rues en lui-même, même si j'en connaissais pas l'origine, le nom des rues m'importait parce que il suscitait une émotion en moi, quoi. Et puis de toute façon, il fallait que je les sache, les noms des rues. Pour être titularisé, il faut passer ce qu'on appelle l'examen de tri. Ça consiste à classer 200 lettres, des lettres, un jeu de tri, quoi, des lettres fictives, mais enfin avec des adresses, à les classer dans les casiers des quartiers du 20e arrondissement en moins de 10 minutes. Alors, ça nécessite de savoir toutes les rues du 20e. Et ça nécessite d'avoir chacun sa méthode pour retenir le nom.
Alors, oui, justement, parlez-moi de ça, les méthodes pour retenir les noms.
Eh ben, certains quartiers avaient des noms un peu exotiques ou des noms qui faisaient rêver. Moi, c'est comme ça que je faisais, personnellement. Chacun fait comme il veut. Mais alors, rue de la Chine, rue du Cambodge, c'était le même quartier. Donc, moi, ça m'aidait à retenir.
Il devait y avoir les écrivains, les peintres, les sculpteurs,
oui,
non ?
Oui, oui. Ben, c'est assez dispersé, mais il y a quand même, notamment dans les nouveaux quartiers, on a donné des noms de peintres. Il fallait un moyen mémotechnique pour pouvoir passer cet examen. Et donc, le nom, effectivement, quand on avait fait la tournée, le nom s'était inscrit douloureusement dans la mémoire, quand même.
Un jour, on démolira ces beaux immeubles si modernes. On encassera les carreaux de plexiglas ou d'ultra-vitre. On démontera les fourneaux construits à Polytechnique. On sectionnera les antennes collectives de télévision. On dévissera les ascenseurs. On anéantira les vies d'ordures. On boira les chauffeuses. On pulvérisera les frigidons. Quand ces immeubles vieilliront, du poids infini de la tristesse des choses.
Il dit casse à la rue Rampolo.
On démontera les fourneaux. Construire des polytechniques. On sectionnera les antennes collectives de télévision. On dévisera les ascenseurs, on anéantira les vies d'ordures, on broiera les chauffeuses, on pulvérisera des frigidons. Quand ces immeubles vieilliront, du poids infini de la tristesse des choses. Il y a des mots difficiles.
Cassant le silence, je déballe ma science. Petit à petit, ma connaissance avance. Ma discipline urbaine, sans haine, fait fais de moi le phénomène. Voici mon action, sans transaction. La musique et le rap sont mes satisfactions. Unification dans toute une nation. Le but de la lutte est l'organisation. Écarte Descartes et toutes les philosophies. Étudie les lois universelles de la vie. Une seule option pour cette action. Soyons la division contre la division. Je garde toujours quelque chose dans mon cœur. Art ou classique, la musique adoucit les mœurs.
Daniel Milo, historien, ne résiste pas au charme des chaînes dénominatives.
Par exemple, je vois que la rue Merderay est devenue Verderay, Verdelay, et maintenant Étienne Marcel. Ou la rue Tirvit devient Tirboudin et Marie Stuart. Oui, c'est charmant. Alors dans la première partie, la partie médiévale, c'est que notre stéréotype du Moyen-Âge comme une période plus naturelle, plus spontanée, plus organique que la nôtre, se confirme. Et comment je l'ai confirmé? En comparant des plans de villes médiévales du 15e, 16e siècle. Et ce qu'on voit, c'est que le promeneur, le touriste du 16e siècle, quand il allait d'une ville à l'autre, trouvait toujours les mêmes noms de rues. Il y avait les métiers, les corporations, les saints, quelques noms de nobles. C'est-à-dire, d'abord, on donne nom. Donc, il y a quelque chose de spontané, démocratique.
Alors, au XVIIe siècle, finalement, il y a eu toute une épuration des obscénités, comme ça, des noms des rues.
Par exemple, la rue Tut-Imus devient Petit-Mus, puis Petit-Musc. La rue Pied-de-Biche devient la rue des Fossoyeurs, et enfin la rue Servandoni. La rue Pète-au-Diable laisse sa place à Tourniquet, ce qui est déjà trop louche, et qui devient la rue Washington. L'étatisation partielle, au moins l'ambition du pouvoir de s'approprier le droit du nom, date de 1600, date de la période de Sully. C'est lui qui a le premier l'idée de s'emparer de ce monopole, qui avant, je le rappelle, appartenait aux usagers. Ce n'est que vers 1770 que les noms de rue deviennent un enjeu.
Dans la petite rue, les vieilles maisons cachent le ciel par leur toiture. On ne reconnaît les saisons aux légumes des petites voitures. Dans cette rue sale, les centre-foires, les moineaux, les gosses, tout s'appioille. On peut s'y amuser pour voir. J'étais l'aîné de toute une marmaille. C'est une petite rue, c'est le bout du monde. Il n'y a pas de danger qu'on la confonde. Sur le plan, elle n'a pas de nom. On dit d'elle au champ le menton. C'est la rue sans nom.
Les villes sont hétéronymes. Ici, pas de rue de Paris. À Nîmes, pas de rue de Nîmes. Les villes sont hétéronymes. Raymond Queneau.
En étudiant les plans de villes des préfectures et sous-préfectures sous la Révolution française, je vois qu'à partir de 93, c'est-à-dire quand ça chauffe vraiment, on passe des noms propres, aux idéaux. Ce ne sont plus les gloires de la nation,
qui sont au centre de leur passion, mais ce sont les idées, égalité, fraternité, contrat social. Donc, Rousseau n'aura plus de rue, mais il y aura beaucoup de rues du contrat social. Pratiquement, à Paris, pratiquement, tous les saints sont devenus ce qu'on appelait à l'époque l'exil des saints. Donc il y a évidemment d'un côté l'Église, de l'autre côté la noblesse, qui sont devenus persona non grata. Il y a une anecdote qui est là aussi cocasse. C'est l'habitant de la rue Saint-Denis, qui pendant la Révolution française est arrêté par la patrouille. Et on demande, où est-ce que tu habites ? J'habite la rue Saint, non, pas de Saint. Alors, j'habite la rue 2, pas de 2. Alors, j'habite la rue Ni.
Toute sémantique et politique.
Toute sémantique et politique à l'époque. Parce que ce n'est pas uniquement les noms de rue qui ont été débaptisés, ce sont aussi les noms de lieux. C'est Port-Louis devient Port-Liberté. La ville qui s'appelle Condé est devenue Nord-Libre. La ville Saint-Laurent, Main-Libre. Neuville-le-Roi devient Neuville-la-Loire. Saint-Armand devient Libreval. Et Mont-de-Marsan devient Mont-de-Marin. Ce qui est pas mal pour les rugbymen. Vous imaginez ? Faire partie du 15 du Mont-de-Marin. Mais aussi les citoyens eux-mêmes se sont fait débaptiser. La seule mémoire qui importe aux révolutionnaires est celle de l'avenir, des objectifs et des missions à accomplir. Ce qui pourrait expliquer pourquoi la Révolution n'a même pas commémoré Valmy. Ainsi, le touriste qui se promenait dans le Paris de 1793-94 n'avait pas l'impression d'être en cours d'histoire, mais en cours d'instruction civique.
Je l'ai vue, elle m'a dit qu'elle chantait du Mozart dans les cabarets. Une voix d'ange tout bas me chuchote, attends-la. Elle connaît le secret des âmes et du soufflet. Le destin, j'y crois pas. Et pourtant il est là, au carrefour il m'arrête, sous sa cape de fer, au métro Parmentier, le feu rouge est ouvert, une adresse, un papier de mon se sont ouverts, allez ciao, rendez-vous à demain. Prends ton accordéon, mets l'amour.
Marc-Ambroise Rendu, vous dites que baptiser une nouvelle rue n'est pas une affaire simple à Paris.
Non, c'est une affaire compliquée parce que baptiser une rue, ça se fait pour quelquefois des centaines d'années. Par conséquent, c'est une projection dans l'avenir qui est tout à fait importante. On marque un territoire avec un nom. Deuxièmement, les noms de rue témoignent de l'esprit du temps, des préférences des élus qui le plus souvent décident de ces choses-là, et aussi de la pression des familles souhaitent toujours que leur illustre soit pérennisé autrement que par un cimetière ou par une tombe, mais par un nom de rue qui reste vivant. Le plus souvent, ce sont les familles qui demandent. Donc il y a des dossiers qui parviennent à la mairie de Paris, naturellement, et qui sont traités par le cabinet du maire. Que ce soit Jacques Chirac pendant 18 ans, ou que ce soit aujourd'hui Jean Tiberi, il y a quelqu'un au cabinet qui s'occupe tout spécialement de ces affaires de dénomination de rue. Lorsque une rue est nouvelle, donc qu'il faut lui donner un nom de baptême, on puise dans ce stock qui comprend plusieurs centaines de dossiers, je peux vous dire. Et on examine celui qui est le plus urgent, celui qui conviendrait, et on fait passer ce dossier devant une commission. Il y a une commission des dénominations qui est composée d'une vingtaine de personnes, dont un certain nombre d'élus, mais dont aussi des techniciens comme ceux de la Poste, parce qu'il y a quelquefois des problèmes de numérotation, comme des historiens, etc. Et ensuite, la procédure continue. Il faut que le conseil d'arrondissement vote une délibération favorable. Ensuite, ça va au conseil de Paris, qui lui-même doit donner son avis favorable, effectivement. Et tout ça se termine par un arrêté municipal signé par le maire lui-même, qui dit la rue AX02, jusqu'à présent simplement numérotée, s'appellera désormais François Mauriac ou Fernand Brodel.
Alors parlons de François Mauriac.
Alors François Mauriac, c'est toute une affaire, et c'est une bonne illustration des difficultés de la chose. Vous savez que François Mauriac avait reçu... Enfin, le nom de François Mauriac avait été donné à plusieurs artères dans le Midi, notamment dans la région de Bordeaux, donc vous savez qu'il était natif. Mais à Paris, ça faisait 17 ans que la famille demandait à ce que François Mauriac reçoive une artère convenable. Et on a cherché quelle artère on pouvait donner, et on a trouvé le quai de la gare. Alors, le quai de la gare, c'était tout un problème, parce que la ville souhaitait que le nom de gare reste sur ce quai-là. Pourquoi ? Non, pas du tout pour la gare d'Austerlitz, mais parce qu'à cet endroit-là, autrefois, au 18e, existait une gare d'eau. Alors, on a partagé la poire en deux, on a laissé un petit bout du quai sous le nom de quai de la gare, et sur 500 mètres... au droit de la Bibliothèque nationale de France, on l'a baptisé François Mauriac. Pour l'instant, et encore un an après, ou un an et demi après l'inauguration, c'est un endroit totalement sinistre. D'abord, c'est une espèce d'autoroute nuit et jour. L'esplanade est fermée pour des raisons de sécurité, et les arbres, ils sont hauts comme ça. Donc, j'imagine que la famille ne doit pas être tellement satisfaite de ce choix.
Mais personne ne sait que ça s'appelle François Mauriac.
Si, les 14 personnes qui habitent le long de ce quai, mais pour l'instant, effectivement, c'est pas très connu.
Dans la rue, chanté par Aristide Bruand. De Montmartre ou de la chapelle, ici d'ailleurs ou de là-bas. Mais c'est pas que la foule a couru, un matin m'a trouvé sur le temps, dans la rue, dans la rue. Il y a ben des chances pour que mon père, il ait jamais connu ma mère, qu'a jamais connu mon daron. Mon daron qui doit l'avoir eu, un soir de noces qu'il était rond. Dans la rue, dans la rue.
Au Café Le Métro, place des Abbesses, Marika Hubert, Jean-Pierre Barral, Christian Mongin, André Dumas.
Il n'y a eu aucune polémique sur la place d'Alida parce qu'on ne débaptisait pas de nom de rue. Néanmoins, il avait été projeté d'appeler la rue d'Orchamps, rue d'Alida. Alors là, il y a eu un tollé général parce que Orchamps est mentionné notamment dans les livres de Francis Carco, entre autres. Et précisément, le phénomène se retrouve souvent quand des noms de rue sont mentionnés dans des poèmes, dans des chansons, dans des romans, parce que les gens qui lisent l'histoire de Montmartre aiment bien retrouver leur lieu, aiment bien resituer et venir rêver sur les lieux par rapport aux auteurs. Donc ils sont un petit peu laissés pour compte quand il y a des changements de rue comme ça. Quand on voit des noms de rue, on a envie de savoir plus. À partir de ce moment-là, on fouille un peu. Orchamps, c'est intéressant parce que à la base, c'était le nom du propriétaire de la rue, donc c'est amusant de le savoir.
Alors Marika, est-ce qu'il y a des noms qui vous disent dans le quartier ? Est-ce qu'il y a des noms qui vous disent quelque chose et
que vous avez envie de prononcer, pardon, les noms de rues.
Oui, des noms typiques à Montmartre qui n'existent nulle part ailleurs, comme la rue Saint-Rustique, qui est vraiment la rue la plus petite et la plus ancienne de Montmartre, qui est vraiment une rue villageoise et qui a gardé, je crois, le charme malgré les années. La rue Antoinette, qui a été changée en Yvonne Notac. Bon, j'ai connu les deux. Une rue montmartroise, la rue des Rosiers, qui était très connue à Montmartre, qui a été débaptisée. Et l'historique de la rue des Rosiers à Montmartre, toute une histoire et qui n'a rien à voir avec la rue des Rosiers dans un autre quartier. Et puis le Maquis aussi, le Maquis, qui est un endroit. C'est un ancien... Oh, on appellerait à cette époque-là peut-être le bidonville, oui. Actuellement. Le bidonville d'il y a 100, 200 ans, où les pauvres, les petites gens habitaient. Et les pauvres habitaient, et c'est là où a démarré l'étincelle de la commune d'ailleurs. Et maintenant, c'est un haut lieu très, comment dire, privilégié, très huppé, très aisé aussi, où on n'a presque plus accès, tout est clos, tout est fermé.
Montmartre, en 1860, lorsque le village a été annexé, eh bien, ce village ne comportait que 6 rues. Les 6 rues qui sont là-haut, tout autour de l'église Saint-Pierre, de la place du Tertre actuel. Et puis, sur les flancs de la colline, il y avait simplement des cultures, des vignes, les fameuses vignes de Montmartre. Et c'est à partir de 1860 qu'on a commencé à urbaniser l'endroit, à construire, à créer les rues. Alors ce qui est peut-être dommage pour Montmartre, c'est qu'il y a très peu de rues qui ont pour nom des noms d'enseignes. Parce que dans Paris, on retrouve au niveau des rues d'anciennes enseignes qui sont parfois très poétiques. La rue du Chat qui pêche dans le 5e vient du nom d'une enseigne.
Et la rue du Chevalier de la Barre ?
Alors ça c'est... oui, on a changé le nom de cette rue qui s'appelait la rue des Rosiers en rue du Chevalier de la Barre pour des raisons assez particulières, pour des raisons un petit peu politiques. Alors il faut expliquer rapidement que juste après la guerre de 1870 et l'insurrection de la commune, un certain nombre de personnes veulent faire construire là-haut, sur la butte, le Sacré-Cœur, pour, disons, re-christianiser la France. C'était les raisons officieuses. Et puis également pour remercier Dieu d'avoir écrasé la commune et les communards. Voilà, ça c'était la raison officieuse. On a donné d'autres raisons, bien sûr, politiquement correctes à l'époque pour faire passer la chose. Alors il y a un certain nombre d'anticléricaux, on peut peut-être les appeler comme ça, comme Clémenceau, des intellectuels comme Zola, qui vont vouloir empêcher la construction du Sacré-Cœur. Alors la ville de Paris, pour essayer d'apaiser les choses, pour apaiser ces anticléricaux, pour trouver un consensus, eh bien on décide d'ériger juste devant le Sacré-Cœur la statue du Chevalier de la Barre, qui est un symbole de la libre pensée, et puis de débaptiser la rue qui passe derrière le Sacré-Cœur, qui s'appelait la rue des Rosiers, on l'appelle la rue du Chevalier de la Barre, donc à ce moment-là. Il y a tout de même quelques noms de communards qui ont été donnés à quelques rues de Montmartre. Il y a la rue Simon Dereur, qui a été un grand communard. Il y a aussi, bien sûr, la place de Jean-Baptiste Clément, qui est là-haut, près de la place du Tertre. Louise Michel a été institutrice ici, à Montmartre, tout près de cette place des Abbesses où nous sommes. Et il serait effectivement intéressant de peut-être donner le nom de Louise Michel à une des rues.
Je n'étais pas très bon élève et je suis mauvais citoyen. Mais j'ai ma chambre rue du rêve et mon bureau rue des copains. On ne va pas si vous sonnez, vous dire on a déjà donné et l'on n'attendra rien du tout. Du genre c'est gentil chez vous, les mots on s'en fout. Le monde me dit marche ou crève, je marche lorsque je veux bien. Mais j'ai ma chambre rue du rêve et mon bureau rue des copains. Tiens, prends un verre et assieds-toi. Raconte-nous n'importe quoi et chante un truc à rendre fou les gens mille étages ou dessous. les gens s'en foutent.
Alors parlez-moi, Marc Ambroise Rendu, de la cité Véron.
Alors la cité Véron, donc une petite cité dans le 17e ou 18e arrondissement, et on a voulu lui donner le nom de Pierre Dac. Pierre Dac était très connu et tout à fait apprécié par beaucoup de gens, mais les gens, parce que ça c'est un principe que l'on n'oublie jamais à la ville de Paris, mais dans les autres villes aussi, les gens détestent qu'on change le nom de leur rue. Même si ce nom est inconnu, même si ce nom ne recouvre pas grand-chose, ils détestent être déstabilisés parce que leurs amis, leurs courriers, etc., on ait l'habitude d'accoler son propre nom au nom de sa rue. Donc si vous retirez une partie de... C'est comme si vous arrachiez une petite partie du personnage. Et en tous les cas, lorsqu'on a voulu donner le nom de Pierre Dac à la cité Véron... Les gens de la cité ont dit on veut pas de Pierre Dac. C'est pas qu'on ait des choses, on soit hostile à Pierre Dac, mais nous n'en voulons pas.
Alors la cité Véron, c'est où?
C'est juste à gauche du Moulin Rouge. Nous allons descendre la rue Houdon. Et en bas de la rue Houdon, on tourne à droite jusqu'au Moulin Rouge. Et c'est juste après le Moulin Rouge, c'est-à-dire la place Blanche. Pierre Dac n'a jamais habité cette cité Véron, il y passait en tant qu'ami, mais il ne l'a jamais habité, contrairement à Jacques Prévert et Boris Vian. Or, sachant que dans cette cité, il existe la fondation Boris Vian, et que les héritiers de Jacques Prévert habitent aussi dans cette cité Véron, n'ont pas manqué de réagir.
Parmi les rues les plus tristes de Paris, on peut citer la rue Villiers de l'Isle-Adam, la rue Baudelaire, Charles, et la rue Henri Bell, dit Stendhal. Vraiment, on ne les a pas gâtés. On arrive même à penser qu'on les a peut-être punis en leur attribuant des rues si tristes à Paris. Raymond Queneau.
Lorsqu'il s'est agi de choisir le nom de la grande avenue qui est l'axe principal de ce projet d'urbanisme, ce grand projet d'urbanisme, la grande avenue qui va faire 2 kilomètres de long, naturellement on s'est demandé quel était le super illustre qui allait pouvoir hériter de cette grande avenue. Et comme pour ne pas faire de jaloux, on a fini par décider, et c'est le cabinet de Chirac qui l'a décidé, qu'elle s'appellerait l'avenue de France. Et j'ai oublié de dire que lorsque le choix de la dénomination est le choix de la rue, et c'est un vrai problème ça, adapter le nom à la rue, lorsque ces choix étaient faits, il fallait se retourner vers les familles et leur demander si elles étaient d'accord. Alors on a l'exemple de la Calas, qui demandait une rue à Paris depuis longtemps, et à qui on a proposé une petite rue dans le 13e arrondissement, ici. qui est tout à fait charmante d'ailleurs, qui est une rue avec des ateliers d'artistes, plantée d'arbres, qui est une rue nouvelle. Mais quand la famille, ou la sœur, pour ne pas la nommer, la sœur de Maria Callas est allée voir la rue, elle était un peu en chantier, et elle a dit non, pas sérieux, je ne veux pas accepter ça. Et donc on a donné le nom de Marcel Duchamp, qui est un plasticien, et qui a été réclamé alors par les riverains, qui étaient donc ces artistes qui venaient de s'installer. Donc Callas, pas de nom à Paris pour l'instant, elle attend. Pour Pierre Mendès France, même problème. On voulait donner le nom de la rue de Pierre Mendès France à une rue précisément dans le 13e arrondissement, dans le nouveau quartier de Paris rive gauche, et la veuve de Pierre Mendès France a trouvé que c'était pas suffisant. Donc on passe et on attend. Et donc elle va encore attendre quelques années, et c'est comme ça que Fernand Braudel a pris la place de Pierre Mendès. Alors Chirac, par exemple, c'est tout à fait net. Pendant la première mandature de Jacques Chirac, il est tout à fait évident qu'il a subi la pression des milieux de ses amis politiques, et qu'il y a eu toute une série de résistants ou de gens qui étaient partis à Londres chez De Gaulle, donc de gaullistes de la première heure, qui sont passés dans les rues de Paris. Alors on a eu Dornano, Michelet, Koenig, Monclar, Pio Betta, qui était un jeune lieutenant mais qui s'est illustré, Moranda, de la Vigerie, etc. Donc une bonne vingtaine, plus des noms d'événements. Alors vous avez d'événements ou de lieux. L'île de Sein, qui était la première île à envoyer tous ces hommes à Londres. La conférence de Brazzaville. Alors on a eu une rue de Brazzaville qui ne se référait pas du tout à la capitale de l'ex-Congo français, mais à la conférence de Brazzaville ou de Gaulle, etc. On a eu les insurgés de Varsovie, le maquis du Vercors, le serment de Koufra, etc. Donc c'était politique. Et puis dans la deuxième mandature, le stock étant peut-être un peu épuisé, Chirac s'est rendu compte qu'il manquait des poètes. Et vous savez, le goût qu'affichait, et qu'affiche toujours d'ailleurs le président, pour la poésie et les poètes. Et on a eu toute une série de 22 poètes qui ont commencé à fleurir sur les murs de Paris. Alors on a eu Pierre-Emmanuel, Pierre-Jean Jouve, Reverdy, Desnos, Saint-Jean-de-Perse qui n'avait toujours pas sa rue, Éluard et Aragon qui ne l'avaient pas non plus. Et là, il n'était plus question de politique, il était question de poésie. Marie-Laurencin, Supervielle. Alors on a eu Brassens à cet égard, qui a été considéré non plus du tout comme un chanteur, là, mais comme un poète. Par le maire, Francis Jammes, Garcia Lorca. Dans les conditions pour avoir son nom sur les rues de Paris, il faut tout de même, d'abord, comme on le disait, être mort depuis 5 ans, être relativement illustre ou avoir laissé quelque chose, et il faut quand même que le personnage ait eu un rapport direct avec Paris, ou qu'il ait vécu à Paris, ou qu'il ait écrit sur Paris, ou qu'il ait peint Paris, ou qu'il ait passé une partie de sa vie ou de sa carrière professionnelle à Paris. Et donc il y a beaucoup d'illustres étrangers qui ne figurent pas sur les rues de Paris, tout simplement parce qu'ils sont restés chez eux.
Un taxi s'arrête, des êtres humains descendent. L'un d'eux pèle le chauffeur.
Le chauffeur s'en va avec son taxi.
Un autre humain l'appelle. Donne une adresse et monte. Le taxi repart 25 rue de Châteaudun. Le chauffeur a l'adresse dans la mémoire. Il la garde juste le temps qu'il faut. Mais c'est tout de même un drôle de boulot. Et quand il a la fièvre, quand il est noir, quand il est couché le soir.
Des milliers et des milliers d'adresses
arrivent à toute vitesse et se bagarrent dans sa mémoire. Il a la tête comme un bottin, comme un plan du métropole.
alors il prend sa tête entre ses mains. Alors il prend sa tête entre ses mains.
Le 25 mars 1991, chère madame, cher monsieur, le 11 décembre 1990, le conseil municipal du Plessis-Robinson a décidé de changer le nom de la rue Marcel Cachin pour la dédier à Pierre D'Artagnan. Il y a quelques jours, cette décision a été officialisée par le changement des plaques de rue. Je désire vous donner personnellement les raisons qui nous ont conduits à procéder à ce changement d'appellation et vous informer des mesures que nous avons mises en œuvre afin d'en minimiser les conséquences pour vous, les riverains. Les riverains, ce sont les gens qui vont recevoir, qui ont reçu ce courrier, hein, pour les informer du changement de nom de la rue Marcel Cachin en Pierre D'Artagnan. Alors, Philippe Pémézec, vous êtes maire du Plessis. Donc, cette lettre a émané de la mairie. Et puis, vous expliquez ensuite pourquoi Marcel Cachin ne doit-il plus être honoré au Plessis.
Tout à fait. C'est vrai que cette ville, avant 89, venait de subir 43 ans de communisme, dont 17 ans de stalinisme le plus pur et dur. Et je crois qu'il convenait de redonner, de débarrasser cette ville de la chape de plomb qui pesait sur elle. Et donc nous avons décidé de la débarrasser de toutes les scories qui l'envahissaient, et donc de renouer avec l'histoire, la tradition de cette ville tout simplement, et de redonner aux rues des noms qu'elles avaient autrefois, qui étaient des noms tout à fait charmants, tout à fait bucoliques. Et puis il s'agissait aussi de débarrasser certaines rues de noms d'hommes politiques qui n'avaient rien à voir avec l'histoire de la ville et dont le passé était quelquefois, de mon point de vue en tout cas, particulièrement douteux.
Vous dites débarrasser, c'est quand même un mot très fort, parce que ces gens ont été installés par des gens qui habitent encore le Plessis.
Oui, mais je crois que ma détermination à faire le procès du communisme était aussi fort que l'envie de mes adversaires de faire du communisme quelque chose d'idéal qui en fait est loin d'être idéal. Donc je crois que c'était important parce que je crois qu'il y a une symbolique très forte dans les noms de rue, et donc moi je voulais un peu pacifier cette ville, la dépolitiser surtout.
Et enfin, vous l'avez repolitisée dans un autre sens.
Non, parce qu'à part l'avenue Jacques Duclos qui a repris le nom de Charles de Gaulle, qui aujourd'hui d'ailleurs vanté même par les communistes, toutes les rues que nous avons débaptisées ont retrouvé des noms de personnages qui ont enrichi notre histoire, ou tout simplement de fleurs, de plantes. Et donc je crois que nous avons, en ce sens-là, débarrassé notre ville et surtout dépolitisé notre ville.
Je pense que débaptiser les rues est une mauvaise chose.
Daniel Duguay.
Après, baptiser de nouvelles rues avec des noms moins connotés, c'est une autre question. Mais débaptiser, par exemple, quand on débaptise Marcel Cachin, Jacques Duclos, ou même des résistants locaux comme René Boulanger ou Alexis Martin, qui ont laissé leur vie dans le cadre de la résistance, je crois que d'abord, c'est y compris faire une insulte aux morts, parce qu'ils sont plus là pour se défendre. Et puis deuxièmement, je dirais rien que sur l'aspect, ensuite ça c'est l'aspect, je dirais, plus politique des choses, mais ça a un aspect un peu revanchard, et de plus ça pose beaucoup de problèmes pour les riverains qui ont l'habitude d'habiter une rue, ça coûte de l'argent, il faut que les gens se réhabituent, changent leur carte, etc.
Quand nous écrivons aux habitants, nous leur suggérons un nom qui serait préférable à celui existant, et puis donc chacun s'exprime, il y a un petit coupon réponse en bas de la lettre, et les gens peuvent donc s'exprimer.
Là, on est situé comme ça, la rue qui est en face de nous, là, qui était là, vous voyez la rue en face de nous, elle s'appelait la rue des Platanes.
Françoise Quarez.
Bon, la rue un peu plus haut, toujours la même, hein, elle s'appelait la rue des Érables, et l'autre à côté, c'était la rue des Sorbiers. Et là, tout à fait à gauche, vous aviez la rue des Coutils-Pleu, de l'étang des Coutils-Pleu. Là, c'était avenue Gabriel-Péry, avenue Jacques Duclos et avenue maintenant Général de Gaulle. Maintenant, vous avez la rue de la Cavée. C'est la rue qui monte et qui descend pour repartir sur Paris. Maintenant, qui s'appelle rue Paul Rivet et qui s'appelait la rue de la Cavée.
Et alors, tous ces noms qui ont changé,
oui.
Qu'est-ce que ça...
Marcel Cachin qui est devenu un d'Artagnan.
Oui, qu'est-ce qu'elle effet ça vous fait, vous?
Un mauvais effet.
Alors, on peut essayer de voir?
Oui, pourquoi? Parce que le Plessis Robinson était communiste pendant des années. On a eu des maires communistes. J'ai toujours connu ma commune communiste. Moi, c'est bien beau, des parterres de fleurs. Moi, ça me fait belle jambe. Non, mais quand je vois ça, non.
La rue Marcel Cachin, je me souviens plus. J'ai pas les chiffres en tête, mais je pense qu'une majorité s'est dégagée. En ce qui concerne l'avenue Jacques Duclos, nous avons procédé de façon, j'allais dire autoritaire, mais c'est vrai que je crois que ce nom ne convenait plus à cette avenue. Nous avons débarrassé notre ville du nom de cette personne.
Alors pourquoi D'Artagnan?
Pourquoi D'Artagnan? Parce que D'Artagnan a vécu dans notre bonne ville du Plessis Robinson. Et donc, je crois que c'était bien de lui redonner une place dans notre ville.
Et les résistants qui ont donné leur nom à un certain nombre de rues, ils n'avaient pas non plus grand-chose à voir avec la ville ou...
Nous avons, avec les associations d'anciens combattants, nous avons convenu d'une chose. Nous avons convenu que les rues n'étaient pas un lieu pour honorer les résistants, n'étaient pas un lieu adapté. Et nous avons proposé, dans le futur centre-ville, d'avoir un beau monument aux morts sur lequel nous honorerions tous les résistants.
Alors, D'Artagnan, il a marqué la ville. C'est pas le D'Artagnan d'Alexandre Dumas, mais c'est un capitaine dont on dit même que c'est lui qui a réellement gagné la bataille de Valmy, même si c'est pas à lui qu'on en a donné la pérennité.
Alors, Alexis Martin et René Boulanger.
Oui, et en plus, on nous informe. Alors, moi, c'est une information qui n'est pas vérifié, mais on me dit que la rue Eugène Moulinet est sur le point d'être débaptisée. Eugène Moulinet, bon, j'ai pas eu le temps de regarder quel était son parcours, je pense que c'est également un ancien résistant. Bon. Mais Alexis Martin, puisque le maire avait dit « je ne laisserai des noms de rue qu'à des gens qui ont eu des responsabilités au plan local ». Et Alexis Martin, qui était un résistant et qui a été tué par les Allemands, donc par les nazis, n'habitait pas au Plessis, mais était employé communal à la mairie du Plessis. Et pire, on vient de me dire ce matin que son nom avait été effacé subrepticement du monument aux morts. Donc que vous pourrez vérifier en sortant d'ici.
Souvent, les gens continuent à appeler leur rue... la rue des Sapins, la rue des Hêtres, c'est très drôle d'ailleurs. Et c'est la nouvelle génération qui se fait à ces noms nouveaux, mais les vieux Robinsonnais, les vieux hiboux, continuent à appeler les rues par les noms d'autrefois.
Est-ce qu'il y a, enfin, y en a que ça gêne de changer de rue, que ce soit sur un plan politique ou autre d'ailleurs, hein?
Oui, c'est vrai que nous avons eu quelques résistances, des résistances surtout politiques, comme vous l'avez dit à l'instant, parce qu'évidemment, bon... Il y a une résistance au changement d'une part, et puis il y avait pas une intention de nuire, mais une intention de résister, en tout cas de la part de certains opposants. Donc c'est vrai qu'au début, on a eu une petite résistance. Dans ma rue, par exemple, qui s'appelait la rue René Boulanger, donc que nous avons débaptisé, et qui nous avons redonné le nom d'autrefois, c'est rue des Sapins. Il y a eu une résistance, parce que j'avais dans ma rue un socialiste...
C'était un socialiste, René Boulanger. Hein.
Oui, alors justement, le socialiste de ma rue a pris la plaque et l'a collée sur sa maison en signe de résistance et a appelé sa maison la résidence René Boulanger.
Mm-hmm. Et alors pourquoi est-ce que vous avez viré...
Mais il a vendu sa maison depuis, alors.
Pourquoi est-ce que vous avez viré un socialiste?
Non, là, en l'occurrence, j'ai pas viré un socialiste. J'ai vraiment... Il y a deux choses. Il y avait, c'est vrai, d'une part, l'envie de débarrasser ma ville du communisme. Mais donc, il était important pour moi, d'une part, de débarrasser la ville de cette chape de plomb dont cette ville avait été victime pendant tant d'années, et puis, d'autre part, l'envie, tout simplement, de redonner aux rues de la Cité-Jardin les noms tout à fait sympathiques qu'elles avaient eu à une certaine époque.
Non, moi, j'aime pas qu'on débaptise les rues. Pourquoi? Moi, ça fait depuis combien d'années j'habite à Bron, on débaptise la rue, moi.
Depuis combien de temps?
Ah ben, écoutez, moi, ça fait... Je suis partie 10 ans du Plessis. Ça fait... J'ai avant 58 ans. Ben, ça fait 48 ans. 50 ans que je connais le Plessis. Je connais toutes les rues du Plessis. Je connais tous les vieux quartiers. Je vous emmène partout.
Est-ce que vous avez une impression d'étrangeté, de choses...
On a l'impression qu'on ne nous veut plus, nous. J'ai l'impression que si on débaptise les rues et tout ça, je suis plus une fille du Plessis. Oui, vous avez de la veine que mon mari soit pas là. Il a un concours de boule aujourd'hui, malheureusement. Bah, lui, ça fait 59 ans qu'il habite le même appartement. Celui-là. Mmh. C'est quand même quelque chose, 59 ans dans le même appartement, ça n'a jamais bougé. Moi, j'ai habité à l'avenir assez bruyant. En face de moi, c'était des jardins. Mon père avait des jardins. J'ai connu une ferme qui s'appelait la ferme Chabot. Rue de la Ferme, qui a été débaptisée, qui s'appelle Rue de l'Amérique, qui était Rue de la Ferme. On a une école qui s'appelle Anatole France. Quand même, tout le monde sait qui c'est Anatole France. Ils ont voulu la débaptiser. Le stade, ils voulaient l'enlever. Mais moi, j'aurais gros sur la patate. Hein. C'est une bâtisse qui est à nous. Anatole France, c'est quelque chose de merveilleux. Et moi, je veux que mes petits-enfants aïe, Anatole France.
Et maintenant, elle s'appelle comment?
Toujours Anatole France. On s'est battu pour qu'elle change de nom. Vous oubliez le plus beau du Plessis. Le plus beau, vous oubliez. Vous oubliez les guinguettes du Plessis. C'était quoi, rue de Malabry? Qui était l'avenue Robinson avant. Qui s'appelle maintenant rue de Malabry. Mmh. Où ma mère habitait, mon Dieu, elle est morte il y a 7 ans. Et c'était les guinguettes. Et ça, c'était beau à voir. Ça, c'était quelque chose à voir. Là, il y avait même des... Non, de passage dans les guinguettes pour aller au Saint-Pin pour manger.
Vous vous souvenez de ces noms?
Oui, il y avait l'arbre du sapin, il y avait l'arbre du peuplier et il y avait l'arbre érable. Il y avait trois arbres. Et l'arbre de Robinson qui était un...
Le grand arbre, ce qu'on appelle le grand arbre.
Mais un châtaignier, c'était un érable?
Non, c'est un grand chêne.
Un chêne. Mmh. Alors un chêne, comme ça. D'une dimension.
Et le chêne, grand ça,
et ils ont coupé le chêne.
Si vous aviez à donner des noms à des rues, qu'est-ce que vous feriez? Des nouvelles rues?
Qu'est-ce que je mettrais?
Oui.
Ici, là?
Oui.
Des noms de fleurs?
Certainement pas.
Pourquoi?
Je donnerais le nom ici, là. Mmh. Avec tout ce qu'on a vu après. Pendant la guerre 39-40, je mettrais un nom de résistant.
Jean Moulin?
Oui. Pourquoi pas?
Lieu de mémoire, les noms des rues, avec Daniel Milot, Éric Le Breton, les enfants de Belleville, Marika Hubert, Jean-Pierre Barral, Christian Mangin, André Dumas, Marc-Amboise Rendu, Philippe Pémézec, Françoise Quarez, Daniel Duguay. Texte lu par Blandine Molinier. Chanson Les Rustines, Martine Desmarais, Louise Delasselle. Enregistrement et mixage, Geneviève Van Guyen, Emmanuel River. Réalisation, Eliane Millot. C'était une émission de René Elkaïm Bollinger. Thank you.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 3 avril 1997. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.